Bonjour à tous. On est content de se retrouver ensemble pour adorer le nom du Seigneur. Merci beaucoup à Bob pour l'échange. J'ai beaucoup apprécié. Le thème aujourd'hui, c'est justement cette sainteté dans le Seigneur, de marcher dans cette sainteté. Et c'est ce que nous faisons un peu dans ces temps, dans ce thème que nous abordons. C'est dans ce thème de redécouvrir justement qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus. Et aujourd'hui, on va découvrir un nouveau thème, redécouvrir la marche avec Dieu. Pourquoi aujourd'hui redécouvrir? Comme on l'a dit, on croit que suite un peu à tout ce qu'on a vécu dans ces 2 dernières années, du bouleversement, après aussi durant pour la rentrée, on a besoin de voir que Dieu veut que nous puissions le redécouvrir. On a besoin de jour après jour de continuer, d'expérimenter encore plus sa grâce, sa sainteté aussi qu'il nous accorde. Voilà pourquoi qu'on a besoin justement de pouvoir l'adorer, le louer lui seul. Et justement, les chants que nous avons interprétés ce matin nous encourageaient à venir dans sa présence, à proclamer sa sainteté, à proclamer que Dieu est tout. Et c'est ce que nous voulons dire encore ce matin. Le mot redécouvrir, comme on l'a déjà pu dire plusieurs fois, c'est découvrir de nouveau que d'autres avaient découvert ou considéré avec des yeux neufs. Donc, on veut découvrir quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose qu'on a oublié, peut-être quelque chose qu'on a perdu, et c'est de le redécouvrir. Une autre définition, c'est redécouvrir de nouveau ce qu'on avait oublié ou découvrir d'une façon différente. Peut-être ça fait longtemps que nous sommes dans la vie chrétienne, et peut-être le Seigneur veut nous dire maintenant, là, je veux que tu aies un pas de plus avec moi. Je veux que tu puisses redécouvrir qui je suis réellement. Et c'est ce que nous voulons faire encore dans cette journée aussi. Alors aujourd'hui, on va redécouvrir la marche avec Dieu. Découvrir la marche avec Dieu. Que veut dire marcher avec Dieu? Qu'est-ce que ça comporte comme décision? Comment est-ce qu'on doit marcher avec le Seigneur? Pourquoi on doit marcher avec le Seigneur? Et on va voir un peu différents passages, et surtout des personnages que nous avons regardés dans ces derniers temps, comme Moïse, comme Abraham, qui ont marché avec Dieu et quel a été l'impact sur eux et aussi autour d'eux. Donc, on a vu justement, un petit rappel un peu dans les derniers temps, qu'est-ce que nous avons vu par rapport à ce terme de redécouvrir, que dans Jean 15, de l'importance de demeurer dans l'amour de Dieu pour porter du fruit. Donc, Jean chapitre 15, verset 10, qui dit, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Donc, on voit comment que Jésus, tout au long de son parcours sur la terre, a justement été resté demeuré. Combien de fois, même s'il était pris à gauche, à droite, il était bousculé, il a fait beaucoup de miracles, beaucoup d'enseignements, il prenait le temps de demeurer dans le Seigneur. Il prenait le temps, justement, de prendre des temps seul avec le Seigneur. Il allait sur la montagne dans le désert pour prendre ses temps de demeurer avec le Seigneur. Donc, comme Dieu nous a aimés dans un amour tellement grand, en retour, nous devons aimer Dieu réellement d'une communion nouvelle, d'un amour complet envers lui. Voilà pourquoi qu'il est important, comme on l'a vu dans Jean 15, de demeurer dans son amour. Et si vous regardez, si vous lisez Jean chapitre 15, vous allez voir que plusieurs fois, il est dit demeurez, demeurez. C'est comme un ordre de dire, faites-le, refaites-le, puisque des fois on manque, des fois on perd, on oublie de demeurer réellement dans le Seigneur. Cet amour agapé que nous avons vu justement dans ces versets 15, ce n'est pas juste un amour qui est physique, ce n'est pas juste un amour qui est émotionnel. Ça, c'est l'amour plus filial. Mais l'amour agapé dans le texte hébreu veut dire justement d'un amour vraiment complet, d'un amour réel qui vient du cœur, du plus profond de nous-mêmes. Voilà de ce que nous devons faire aussi pour aimer notre Seigneur. Et comment aimer Dieu? Mais c'est la même chose, c'est de prendre du temps avec lui, de vivre cette communion, cette connexion avec lui, que ce soit à travers la prière, à travers des temps de contemplation, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers la prière les uns vers les autres. Différents moyens que Dieu nous donne de pouvoir rester, demeurer dans sa présence. Prochain diable, on a vu justement aussi comment redécouvrir Jésus-Christ, comment vivre une relation saine, juste et sincère avec notre Seigneur. On l'a vu avec l'exemple de Nicodème. Rappelez-vous, Nicodème, ce docteur de la loi qui est venu vers Jésus en pleine nuit, parce qu'il ne voulait pas encore se dire qu'il était avec Jésus. Il avait encore la crainte des Juifs. Et Jésus va lui dire, mais il faut que tu naisses de nouveau. Et lui, il ne comprend pas parce qu'il comprend juste du côté physique. Comment je peux revenir dans le ventre de ma mère? Mais Jésus voulait lui dire, tu as besoin de renaître d'une façon spirituelle. Et c'est à travers la foi, à travers la façon de dire, de reconnaître tes péchés et de pouvoir décrier, de dire, oui, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et si vous allez un peu plus loin, dans le chapitre 3 que nous avons vu, donc dans Jean, le verset 16 que nous connaissons tous, Jean chapitre 3, verset 16, qui dit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit dans ce texte comment que Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est lui-même venu à travers le Fils pour nous donner son ultime amour à travers le message de la croix, à travers le sacrifice de la croix. Comme le texte aussi le dit aussi sur l'écran, cette question, est-ce que nous sommes des chrétiens qui agissent pour Dieu sans avoir une vie avec Dieu? Il y a une différence. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu. On peut venir à l'église, on peut lire la Bible, on peut prier, on peut faire beaucoup de choses, même des activités, on peut même faire un ministère pour Dieu. Mais sans avoir réellement une vie avec Dieu. Dans le sens que nous faisons les choses pour essayer de plaire à Dieu. Nous faisons des œuvres pour essayer d'être bien devant Dieu ou devant les hommes. Mais nous avons oublié cette relation intime, nous avons oublié cette connexion, que c'est Dieu qui doit agir à travers nous pour faire les choses. Le Seigneur veut nous dire encore aujourd'hui qu'il veut demeurer en nous, qu'il veut avoir cette relation intime, cette relation de proximité avec nous, afin que nous puissions avoir une vie avec Dieu. Prochain diable, nous l'avons vu la semaine passée, aussi le rôle du Saint-Esprit. Comment que le Saint-Esprit est là? Comment le Saint-Esprit a la même grandeur que Dieu et le Jésus-Christ? Il n'est pas juste une troisième personne qu'on adore ou qui est là, qu'on sait qu'il est avec nous, mais on n'en tient pas de rigueur. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en nous. Réalisez-vous que je veux dire, Dieu est venu. Dieu est venu, on n'a plus besoin d'aller dans un temple, on n'a plus besoin de passer peut-être par un pasteur, un prêtre ou toutes sortes de personnes pour avoir accès à Dieu. Dieu est là avec nous. Et on a vu la semaine passée quatre points essentiels de ce que le Saint-Esprit fait en nous. Le premier, justement, que le Saint-Esprit demeure en nous. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19, qui dit, ou bien auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ce verset renvoie justement à l'idée du temple de Dieu à Jérusalem, où la présence de Dieu était là, où les gens venaient justement vers le temple pour recevoir cette présence, pour apporter un holocauste, un sacrifice, pour écouter Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. On n'a plus besoin d'aller à une certaine place pour adorer Dieu ou demander sa grâce. Le fait que Dieu réside en nous, il faut que notre corps soit saint, comme l'a été le temple, comme l'a été la tente de rencontre dans le désert. D'où l'importance que notre corps, que nos paroles, nos actions, justement, soient dignes de la présence de Dieu. Que nous puissions, tout ce que nous sommes en tant que personnes, puissent glorifier Dieu seul. Le deuxième point que nous avons vu dans le prochain diable, c'est cette plénitude du Saint-Esprit. Il faut vivre cette plénitude du Saint-Esprit. Donc, on a vu que le Saint-Esprit demeure en nous, de ce qu'il fait. Mais maintenant, le Saint-Esprit veut plus que juste demeurer. Il veut agir puissamment. Il veut agir d'une façon pleine et complète. Et voilà pourquoi qu'on découvre la plénitude du Saint-Esprit. Cette plénitude s'obtient justement en buvant, entre guillemets, l'eau vive du Saint-Esprit. Regardez Jean chapitre 7, verset 37-38. Jean chapitre 7, verset 37-38, qui dit, le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Des fleuves d'eau jailliront de lui. Voilà ce que le fait d'être en plénitude avec le Seigneur. N'est-ce pas ce qu'on aimerait expérimenter, vivre jour après jour? Cette plénitude du Saint-Esprit n'est pas simplement juste une expérience d'un instant, mais doit être renouvelée jour après jour, en présence de chaque besoin, jusqu'à une transformation qui est complète. animant de notre Seigneur. Jour après jour, on doit expérimenter ce que le Saint-Esprit fait en nous. Jour après jour, on doit lui laisser la place totale afin qu'il puisse nous transformer, afin qu'il puisse nous révéler qui est Dieu, afin qu'il nous puisse nous rendre de plus en plus conformes à la vérité de Dieu. Le troisième point que nous avons vu, Franck Chandia, c'est que le Saint-Esprit se manifeste par les dons qu'il donne. Donc, le don de l'Esprit, comme on voit comme une définition, ou les dons spirituels, est la qualification surnaturelle accordée à chaque croyant en vue de servir dans le cadre du corps du Christ. Donc, le don de l'Esprit, les dons que Dieu nous donne par l'Esprit, ne sont pas pour nous. Ce n'est pas pour nous glorifier. Ce n'est pas pour glorifier même un ministère ou l'Église. C'est pour glorifier Dieu seul. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, qui dit « En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. » Le Saint-Esprit nous donne des dons, des talents, des ressources, des moyens pour démontrer qui est Dieu, pour attirer des personnes à revenir à celui qui nous a créés, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et tous ces dons, justement, sont là pour le bien, le bien commun, c'est-à-dire nos frères et sœurs de l'Église, nos frères et sœurs dans l'Église, nos frères et sœurs autour de nous, pour les gens autour de nous. Toutes ces dons sont là pour le service, pour l'édification de l'Église, pour l'édification des uns des autres. Ces dons sont là pour nous aider aussi à progresser dans notre cheminement avec le Seigneur. Et le quatrième point que nous avons vu, prochain dia, le Saint-Esprit se manifeste en puissance. Nous savons que l'Esprit de Dieu est puissance, puisque c'est Dieu lui-même en nous. Et il agit à travers nous, à travers l'Église qui est son corps. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8, il dit « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Cette puissance est disponible à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Cette puissance est donnée justement à chaque croyant qui a le Saint-Esprit, qui demeure en lui et qui vit cette plénitude du Saint-Esprit. Comme on l'a dit, le Saint-Esprit agit par la puissance à travers une personne, c'est vrai. Mais tout cela pour l'édification commune. Tout pointe vers l'autre, vers la communauté, vers l'Église. Comme on le voit aussi dans l'écran, le Saint-Esprit est la vie et la puissance du témoignage de l'Église. L'Église fonctionne à travers le Saint-Esprit. La puissance, comment que les gens vont voir l'Église, c'est à travers le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas présent dans l'Église, les gens ne vont pas le voir. Ils vont juste voir un bâtiment, juste voir un rassemblement de certaines personnes qui vont faire des choses. Mais si le vrai Saint-Esprit réalise vraiment sa puissance, se manifeste en puissance au sein de l'Église, les gens autour d'eux vont voir. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Prochain dia. Dans ces dernières semaines, justement, dans les temps de prière et de l'ordre aussi de la soirée de louange et de prière, on a parlé justement de différents personnages, dont Moïse, de son parcours de vie. On sait comment que Moïse, malgré ses imperfections, ses lèvres malhabiles, comme on le voit dès le début, a obéi à la volonté de Dieu pour délivrer le peuple hébreu de l'esclavage de l'Égypte. Comment qu'il a conduit le peuple à travers le désert, où Moïse a reçu les commandements et les lois pour ce peuple choisi par Dieu. Et dans tous les textes que nous avons lus dans ces dernières semaines, il y a un mot régulier qui vient, c'est « marcher ». Marcher. Qu'est-ce que ça veut dire « marcher » hein? J'étais voir dans le dictionnaire. C'est changer de place en déplaçant les pieds l'un après l'autre, ça veut dire avancer. On sait tous ce que ça veut dire marcher. On le fait tous les jours. Dès notre jeune âge, on l'a expérimenté, développé. Et même on dit que marcher au moins une demi-heure par jour, c'est très bon pour la santé, pour notre corps. Donc un des premiers aspects de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre. C'est tout simple et c'est vrai qu'on ne réfléchit pas parce que on le fait automatiquement. Dès notre naissance, quelques temps, quelques mois après notre naissance, notre cerveau a coordonné ses mouvements. Elle n'a pas besoin de réfléchir comment mettre un pied devant l'autre. On le fait tout à fait d'une façon naturelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire de marcher du côté spirituel, comme l'a fait Moïse? Donc, marcher du côté physique demande un geste, demande une impulsion, demande une décision. Je désire marcher. À ce moment-là, on donne un ordre à notre cerveau pour avancer. Du côté spirituel, on a aussi besoin de faire une décision. On a besoin de faire un geste concret, de faire un pas. On l'a fait lors d'une conversion, où on a choisi de quitter notre ancienne vie pour suivre justement le Seigneur Jésus-Christ. Tout en abandonné entre ses mains et de pouvoir justement marcher avec lui. Donc dès qu'on a pris cette décision de faire ce pas, alors on a commencé à marcher avec le Seigneur. Et au fur et à mesure, jour après jour, on a continué de marcher dans cette sanctification, dans cette progression de cette marche avec le Seigneur. Donc, le premier principe de faire cette décision un jour de notre vie est de marcher par la suite. Chacun va vous dire ce matin, mes pasteurs, moi je marche avec le Seigneur à la suite de notre Dieu. Mais nous savons tous, comme chacun de nous, comme moi-même, que souvent nous ne marchons pas à la suite de notre Dieu. Oui, on a décidé un jour de marcher d'une façon juste et chrétienne devant le Seigneur. Mais plusieurs fois, on est arrêté, ou plusieurs fois, des fois même, on recule. La signification d'un dictionnaire du terme marcher, c'est avancer, avancer. On ne peut pas marcher sur place. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher sur place. On peut le faire, mais on n'avance pas. On reste sur place. C'est un principe physique tout simple. Quand on voit Moïse dans le désert suite au péché, rappelez-vous, donc Moïse va sur la montagne pour recevoir les lois et les commandements de Dieu. Pendant ce temps-là, le peuple s'impatiente et il dit à Aaron, ben, on veut fabrique-nous un Dieu qui va marcher devant nous. Et là, il fabrique un Dieu de métal fondu en veau d'or. Et ils vont se prosterner, se glorifier devant cette statue. Et là, Dieu va dire à Moïse, redescends parce que le peuple que tu as sorti d'Égypte est en train d'être corrompu, d'être dans le péché. On voit comment que le peuple avait besoin encore de comprendre réellement ce que ça veut dire de marcher avec Dieu. Ils avaient vu des miracles. Ils ont vu comment que Dieu a agi par puissance à travers les différents signes sur le Pharaon. Comment qu'ils ont traversé aussi la mer Rouge. Comment que la mer Rouge a anéanti toute l'armée du Pharaon. Mais malgré toutes ces puissances et miracles, à un moment donné, ils s'égarent et ils marchent à reculons. Alors, lisons maintenant, ouvrons notre Bible. Dans Exode chapitre 33, versets 12 à 17. Je vais demander à Lise de nous lire ce texte pour nous. Ésaïe chapitre 33, versets 12 à 17. Alors, Lise, tu peux mettre ton micro et nous le lire pour nous.
Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, « Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Amen.
Amen. Merci beaucoup. Merci. Moïse savait que donc si Dieu ne marchait pas avec lui et le peuple, qu'ils allaient à la perte, au désespoir, que le peuple allait s'égarer loin de Dieu, et que les promesses qui sont rattachées à la sortie de l'Égypte et d'aller jusque dans leur pays promis, n'allait pas se concrétiser. Voilà pourquoi que justement, Moïse sait que la relation qu'il a avec Dieu et se permet au Chadia de lui rappeler qu'il a obtenu la faveur de Dieu. Regardez, rappelez-vous l'histoire justement de Moïse, le miracle de la naissance, lui qui a été sauvé, qui a été mis sur le fleuve, qui a été recueilli par la fille du Pharaon, qui a eu une instruction à la cour du Pharaon. Comment que plus tard il a voulu aussi faire justice et comment il a tué un Égyptien, il a dû fuir pendant 40 ans dans le désert où Dieu s'est révélé. Comment que Dieu l'a fait revenir, comment que Dieu l'a utilisé pour démontrer à travers des signes comment que la puissance de Dieu au peuple égyptien. Moïse a grandi, a marché avec Dieu. Et Moïse ne veut pas aller plus loin s'il n'a pas la garantie que Dieu va marcher avec lui. Sinon, ils vont être un peuple comme tous les autres. Et il dit au verset 13, « Eh bien, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions et fais-moi connaître à moi. » Moïse va aller plus loin dans la relation avec Dieu. Il a besoin à ce moment-là, justement, devant le péché du peuple et des conséquences qu'il a eues, il a besoin de voir l'amour de Dieu. Il a besoin de voir la grâce et la bonté de Dieu se manifester. Pourquoi? Voilà pourquoi il veut la faveur de Dieu. Moïse ne veut pas simplement conduire le peuple à travers le désert jusqu'à la terre promise. Il veut connaître les intentions de Dieu. Il veut le connaître personnellement. Parce qu'il sait que si Dieu ne marche pas avec lui, il n'arrivera pas à aller jusqu'au bout avec ce peuple. Parce que ce peuple est un peuple qui est rebelle. Un peuple qui revient toujours en arrière. Et Dieu va lui dire au verset 14. Regarde au verset 14, il lui dit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible. » Moi, je lui dis, « Non, je veux pas que tu marches loin de moi, peut-être avec la nuée ou comme ça. Je veux pas non plus que tu sois un ange qui marche avec moi ou avec le peuple. Je veux que ce soit toi qui marches. Parce que si tu es vraiment là, je suis persuadé, je suis conscient que tu vas m'aider, que tu vas m'utiliser pour que la puissance de Dieu se manifeste, pour que nous puissions avancer, pour que tu aies grâce devant ce peuple. Ce matin, le Saint-Esprit veut nous dire qu'il marche avec nous d'une manière nouvelle. Et que la conséquence de cette marche avec le Seigneur, c'est va nous donner une existence paisible. Une existence paisible, ça ne veut pas dire que c'est une existence qui n'aura pas de problème, pas d'épreuve, mais une existence où on va sentir la confiance de Dieu. On va sentir la joie, la paix que Dieu est en nous. Que malgré tout ce qui se passe devant, autour de nous, on a la certitude que Dieu marche avec nous par le Saint-Esprit. Le Seigneur veut nous donner sa faveur, comme il l'a fait aussi à Moïse. Le Seigneur veut donner son repos en lui. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré tout ce qui peut se passer dans notre propre vie, il faut que le Seigneur marche avec nous. Prochain diable, nous arrive dans notre vie que nous réalisons que notre marche spirituelle avec Dieu est souvent arrêtée, n'avance pas. Comme on l'a dit, peut-être qu'on fait du surplace, ou peut-être même qu'on est en train de reculer. Ce qui m'amène au prochain point. Est-ce qu'on peut marcher à reculons? Est-ce qu'on peut marcher à reculons? Oui, on peut le faire. Mais le défi, c'est qu'on risque de tomber. On risque de ne pas voir les obstacles qui sont derrière nous. On peut peut-être se taper contre le mur parce qu'on ne voit pas où on va. Du côté spirituel, on voit beaucoup de personnes, des fois, marcher à reculons. Et je ne dis pas forcément pour ceux qui ne croient pas ou qui ne suivent pas avec Dieu, mais aussi dans nos églises, parmi les chrétiens, parmi les leaders, il marche à reculons. Dans le sens que lorsqu'on est devenu chrétien, lorsqu'on a décidé de suivre Dieu, on a décidé de marcher avec lui, de rester dans ses traces, de le suivre, de se conformer à la vérité de Dieu. Mais ça arrive que souvent, des fois, avec le temps, que peut-être cette vérité n'est plus vraiment présente, que nous commençons peut-être à s'arrêter. Et lorsqu'on arrête de marcher, mais on recule. Lorsqu'on est en arrière, avec le Seigneur, lorsqu'on fait une pause, on recule. On ne peut pas dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin maintenant d'un temps de break, d'un temps de vacances, et puis je reviendrai plus tard. » L'ennemi sait très bien que lorsqu'on prend un temps de break, lorsqu'on n'avance pas, lorsqu'on ne marche pas en avançant, alors on va reculer. Même si nous croyons encore en Dieu, même si on va encore à l'église, on peut marcher à reculons. Et ça arrive à chacun de nous, dans notre vie. À un moment donné, peut-être qu'on a senti que la présence de Dieu n'était pas vraiment là, que la plénitude du Saint-Esprit n'était pas vraiment là, qu'on n'arrivait pas réellement à demeurer en Dieu. Un exemple dans la Bible que nous connaissons tous, c'est le roi Saül. Rappelez-vous le roi Saül? Donc Dieu l'avait mis sur le trône comme le premier roi d'Israël. Il lui a dit, si tu restes conforme à la vérité, si tu me suis, ta descendance sera sur le trône. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Saül a voulu dénoncer les plans de Dieu, faire sa propre justement volonté sans tenir compte celle de Dieu. Et on peut le voir dans différents chapitres. Regardez dans 1 Samuel 13, où Saül va en guerre contre les Philistins. Et normalement, justement, avant que les Israélites allaient en guerre, ils demandaient à un prophète, ils demandaient à un sacrificateur de faire un sacrifice pour que Dieu puisse être là, pour que Dieu puisse bénir le peuple, protéger le peuple pour aller en guerre. Et là, ils ont appelé Samuel. Mais Samuel n'est pas arrivé tout de suite. Peut-être un jour, deux jours, trois jours. Et les gens commençaient à s'impatienter. Et là, ils voyaient les Philistins arriver. Et ils ont dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et Saül s'est dit, ben, pourquoi pas, je peux faire le sacrifice moi-même. Et lorsque Samuel est venu, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as voulu dénoncer les plans. Tu savais réellement, tu savais qu'est-ce qu'il fallait faire. Et Saül a continué dans cette voie. Il aurait pu se repentir à ce moment-là. Mais on le voit plus rapidement à mesure qu'il a continué dans cette voie. Il a commencé à avancer en reculant. Jusqu'au jour que la royauté lui était enlevée. Cet exemple du roi peut aussi nous arriver. On commence à marcher avec Dieu, à suivre sa volonté. Mais à un certain moment, on décide de faire par nous-mêmes, de marcher comme on le désire. Petit à petit, on commence à marcher, mais à reculons. On s'enfonce dans le péché, dans l'orgueil du ministère, par exemple, dans des attitudes qui ne sont pas celles du Seigneur. Lorsque nous marchons les yeux fermés ou à reculons, on ne peut pas éviter les obstacles. On a besoin d'avoir un guide, une personne qui nous dit où il faut mettre les pieds si on ne veut pas trébucher. Et il faut que cette personne, ce guide, nous parle, nous exhorte à avancer dans le bon chemin. Et nous savons que ce guide, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, il veut que nous puissions avancer avec lui. Non pas en reculant, mais avancer devant. Il veut nous redire à chacun de nous qu'il est ce guide pour nous donner la façon de marcher dans ce chemin. Jésus ne va pas nous abandonner dans nos situations les plus difficiles, lorsqu'on se détourne de lui. Dans sa grâce tellement grande, dans sa grande miséricorde, il veut nous ramener à lui. Il veut nous ramener dans ses pas. Voilà l'importance de marcher devant la face de Dieu. Et on va voir maintenant qu'il ne faut pas simplement marcher en avant, mais il faut marcher d'une façon juste devant Dieu. Et pour terminer, regardons justement l'exemple d'Abraham. Prochain diapositive. Rappelez-vous Abraham. Abraham est très vieux. Dieu lui a donné plein de promesses. Il va avoir une descendance nombreuse. À 99 ans, il n'a pas encore d'enfant. En tout cas, pas d'enfant de sa propre chair, de la chair de sa femme. Genèse chapitre 17, verset 1 dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Marche devant ma face et sois intègre. On voit ici le mot qui accompagne le mot marcher. Ce bout de bras devant ma face. Donc Dieu ne lui dit pas simplement de marcher en avant ou d'avancer. Il dit marche devant ma face. C'est-à-dire de marcher dans sa présence devant lui. Selon ses commandements, selon ses principes à Dieu, à lui, selon la vérité, dans l'intégrité. De marcher devant la face de Dieu va plus loin que juste de marcher avec lui. La face de Dieu va nous révéler quelque chose. Et regardez, Nombre chapitre 6, verset 25, qui dit « Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. » Donc, il est souvent question dans les psaumes, dans les autres livres de la Bible, du regard de la face de Dieu. Donc, la face de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est sa bienveillance, c'est ce réel intérêt de Dieu pour ton peuple, pour le bénir et lui faire du bien. On voit aussi souvent dans la Bible comment le contraire existe aussi, ou comment que Dieu cachait sa face. Cacher le regard de la face de Dieu, c'est une expression de son déplaisir, de quelque chose que Dieu ne peut pas tolérer devant lui. Alors il se cache la face, parce que Dieu est un Dieu saint. Et si nous marchons dans le péché, si nous reculons, Dieu va cacher sa face, parce qu'il ne peut pas nous regarder. Il ne peut pas être resté saint et regarder le péché. Donc marcher à la clarté de sa face, c'est se conduire avec son approbation. Que Dieu fasse briller, rayonner sur nous sa face. Comme Moïse, rappelez-vous, hein, Moïse, quand il a été de nouveau sur la montagne pendant 40 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il était tellement dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, que lorsqu'il est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Il brillait de la gloire de Dieu, tellement qu'il devait mettre en voile devant le peuple, parce que le peuple avait peur. De dire, mais écoute, là, on voit tellement comment tu rayonnes la face de Dieu, de la gloire de Dieu, qu'on a peur que le péché, que Dieu nous fasse, la conséquence de nos péchés. Voilà ce que c'est de marcher devant la face de Dieu, d'avoir sa bienveillance, d'avoir ce regard de Dieu sur nous. De marcher devant la face de Dieu comporte de marcher dans la vérité, parce que Dieu ne tolère pas le péché et le mensonge. Il connaît tout de nous et on ne peut pas nous cacher devant lui. Voilà pourquoi que Dieu va dire à Abraham de marcher dans l'intégrité. Dieu veut redire encore une fois à Abraham que s'il marche devant lui dans l'intégrité et la vérité, alors sa grâce et ses bénédictions vont reposer sur lui et sa descendance. Et des centaines d'années plus tard, cette promesse que Dieu fit à Abraham permet à Moïse et au peuple hébreu de sortir de l'esclavage après plus de 400 ans et d'aller commencer à marcher pour aller dans le pays de la promesse que Dieu avait faite à Abraham et ses descendants. Voilà pourquoi que Moïse veut que Dieu marche avec lui, qu'il obtienne la faveur de Dieu, afin que ce voyage jusqu'à la terre promise puisse être conduit et béni par Dieu. Prochain diable. Ce matin, notre désir est que chacun de nous, nous puissions marcher avec Dieu, marcher devant la face de Dieu, marcher dans ses pas à côté de lui. Même si nous avons fait cette décision il y a plus de plusieurs années, ou peut-être nous sommes encore en réflexion, ou peut-être nous sommes dans un arrêt, le Seigneur désire encore ce matin nous dire, viens, marche devant ma face. Je veux que ma grâce, je veux que ma gloire se manifeste sur toi. Dans ta vie. Voilà l'importance encore aujourd'hui et dans ces prochains jours de redécouvrir comment marcher avec Dieu, de redécouvrir comment notre marche dans la vérité, dans l'intégrité doit se faire, afin de ne pas marcher à reculons. Et demander au Saint-Esprit de nous révéler ce qui peut nous faire avancer d'un pas ferme sur le chemin que Dieu nous a tracé. Ne croyons pas parce que nous sommes chrétiens, parce que nous allons à l'église, que nous marchons devant la face de Dieu. Oui, peut-être à un moment donné, nous marchons en avant, mais que c'est possible avec le temps que nous n'avançons pas. Et si nous n'avançons pas, comme nous l'avons dit, nous reculons. Sans forcément le réaliser au début, mais notre ennemi, Satan, s'arrange pour que ça se fasse de petit à petit, que nous marchons en reculons. Devant toutes les circonstances que nous vivons actuellement, tout ce qu'on a vécu depuis plus de 2 ans, a permis de voir comment que, dès le début de la pandémie, on s'est ressaisi, on a vu qu'on avait besoin de vraiment s'appuyer sur Dieu, de marcher non pas avec les principes peut-être de l'Église qui étaient fermés, les circonstances autour de nous. Et on a commencé à rester dans la présence de Dieu, à prier, à intercéder pour que Dieu continue son travail en nous. Et on a vu des fruits, on a vu la grâce, la bienveillance de Dieu. Et avec le temps, peut-être on s'est habitué. Et on voit aujourd'hui comment c'est. On voit comment que dans nos églises, autant dans notre église à Carrefour, mais autant dans d'autres églises, les gens ont lâché l'église. Les gens viennent de temps en temps à l'église. Ils ont trop de choses. Ils vont voir, ah, ben, on peut aller voir sur Internet un culte, on peut aller voir durant la semaine des messages suffisants. On voit On va voir dans ces prochains temps l'importance aussi de redécouvrir l'Église. De redécouvrir l'Église selon ce que le Seigneur veut nous dire. Mais ce matin, le Seigneur veut dire, est-ce que tu marches réellement dans la vérité? Est-ce que tu marches réellement devant ma face? Comme la phrase que nous avons dit au début, est-ce que nous sommes des chrétiens qui agissent pour Dieu sans avoir une vie avec Dieu? Est-ce qu'on fait des choses pour Dieu? Est-ce qu'on essaye d'avancer pour plaire à Dieu? Ou est-ce qu'on marche avec Dieu? Comme Moïse qui dit, je veux marcher avec Dieu. Mon désir, et j'espère que c'est votre désir aussi, que chaque membre de cette église, que cette église Carrefour de Saint-Henri, puisse dire à la fin de cette année, il a avancé en marchant en avant devant la face de Dieu. Il a vu la bienveillance, il a vu la bénédiction de Dieu sur l'église, sur chacun de nous, sur nos familles. Mais pour cela, on a besoin de marcher, d'aller de l'avant avec le Seigneur. Alors simplement, couvrons notre tête. Et prenons simplement quelques instants pour voir peut-être si notre marche avec Dieu est là. Si on avance un pas à la fois, même des fois avec tremblement, même avec des fois des incertitudes, mais on marche d'un pas décidé, ferme avec le Seigneur, le Saint-Esprit qui est là pour nous diriger, pour nous montrer le chemin. Ou est-ce que c'est possible que peut-être on marche sur place? Ou on marche en reculant. On connaît Dieu, on connaît son amour, mais Dieu ne réside plus réellement en nous. N'arrive pas à voir que Dieu demeure réellement en nous. On fait toutes sortes de choses, peut-être on est découragé par la vie, par toutes sortes de situations qui arrivent. On a l'impression de dire, mais où est Dieu? Est-ce que réellement je marche encore? Est-ce que je ressens cette paix? Est-ce que je ressens cette plénitude du Saint-Esprit en moi, jour après jour? Si nous n'avons pas cette confiance, si nous n'avons pas cette paix en nous, alors posons-nous la question, dire, Saint-Esprit, montre-moi si peut-être je vais arrêter de marcher. Aide-moi ce matin à marcher d'un pas décidé avec toi. Aide-moi à marcher devant le Seigneur, devant la face de Dieu, en regardant les yeux fixés sur Dieu, en ayant avec nous le Saint-Esprit qui nous montre le chemin, qui nous donne sa force, sa puissance pour avancer. Dieu veut que nous puissions marcher devant sa face. Le Seigneur veut que l'Église, le corps du Christ, marche réellement avec le Seigneur. Alors, à ce moment-là, nous allons voir la bienveillance de Dieu. Alors, à ce moment-là, nous allons voir, comme il est dit, cette plénitude, cette existence paisible. Même si tout autour de nous s'effondre, tout s'effondre, même tout autour de nous est plein d'incertitudes, de peur, on va vivre dans cette paix, on va vivre dans cette confiance parce qu'on sait qu'on marche avec le Seigneur. Alors prenons simplement quelques instants et laissons l'Esprit de Dieu nous parler, nous montrer où nous sommes dans notre marche avec le Seigneur. Seigneur, tu nous interpelles ce matin à redécouvrir la marche avec toi. Nous interpelle à redécouvrir qu'est-ce que comporte de marcher avec toi, de marcher devant ta face. Seigneur, nous avons tous fait ce pas un jour de t'accepter comme notre Seigneur et Sauveur, de se repentir de nos péchés et d'avancer avec toi. Et nous savons que tout au long de notre vie, nous pouvons avoir des temps où nous avons arrêté de marcher. Ou peut-être même nous avons reculé. Seigneur, tu connais nos cœurs en ce moment. Tu connais nos défis. Tu connais peut-être nos peurs. Tu connais peut-être nos questionnements par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à des circonstances dans nos propres vies. Aide-nous. Comme Moïse a dit, Seigneur, marche toi-même avec nous. Je veux obtenir ta faveur. Je veux que tu sois là à côté de moi pour que je puisse avancer dans la sérénité, dans la foi, dans la confiance que tu vas m'aider, que tu vas m'entourer de ta grâce, de ton amour, que tu vas me protéger, que je serai en sécurité avec toi. Seigneur, nous réalisons qu'on a besoin de marcher dans ta décidée ferme devant toi, afin que nos vies puissent être transformées, afin que notre esprit puisse être renouvelé par ta présence, pour vivre réellement ta gloire, pour vivre réellement cette plénitude que tu désires nous donner. Oui, Seigneur, on veut rayonner comme Moïse a rayonné de ta gloire. On veut rayonner de ta présence. On veut que les gens autour de nous puissent voir par nos actions, par nos paroles, par notre témoignage que nous sommes réellement des enfants de Dieu qui marchent d'une façon juste, intègre devant toi. Alors, Seigneur, viens encore à notre secours. Viens encore à nos faibles mots, à notre faible foi. Viens rassurer nos pas pour que nous puissions marcher d'une façon juste et digne devant toi. Permets encore que cette année, que cette semaine, nous puissions encore avoir des victoires dans notre marche, que nous puissions réaliser comment que, Seigneur, tu ouvres des portes, tu fais un chemin nouveau devant nous, parce que nous marchons avec toi. Saint-Esprit, que tu puisses nous convaincre, chacun de nous, là où, Seigneur, peut-être quelque chose qui ne nous permet pas de marcher avec toi. Quelque chose peut-être que nous essayons par nous-mêmes de régler. On essaie par nous-mêmes de marcher. Saint-Esprit, viens nous révéler afin que nous puissions te mettre devant toi, que nous puissions demander ta grâce, ton pardon, que nous puissions abandonner au pied de ta croix pour que nous puissions marcher d'une façon libre. Saint-Esprit, tu veux que nous puissions marcher d'une façon légère. Tu as dit que le fardeau du Seigneur est doux et léger. Alors que, Seigneur, on puisse abandonner tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous fait peur, toute cette incertitude que nous vivons autour de nous, afin que nous puissions marcher dans la confiance, que nous puissions marcher dans la vérité avec toi. Que, Seigneur, nous puissions voir ta bienveillance, que nous puissions voir tes bénédictions sur nous, pas pour nous, pour nous organiser nous-mêmes, mais que ces bénédictions coulent sur nous afin qu'elles puissent bénir d'autres personnes autour de nous. Alors nous demandons ça à notre beau nom, Seigneur Jésus, parce que nous savons que tu es grand. Nous savons comment que tu veux encore venir avec nous et marcher à notre côté. Nous te remercions de cette possibilité que nous avons encore ce matin de redécouvrir, de marcher humblement avec toi, de redécouvrir de qu'est-ce que ça veut dire de marcher devant ta face. Et nous te remercions parce que tu ne nous lâches pas et tu continues de nous tenir par la main, tu continues de nous entourer de ton amour, de ta protection. Tu nous donnes la puissance de ton esprit pour avancer, pour que nous puissions gagner des batailles, pour que nous puissions avancer pour toi seul. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, gloire à toi. Amen. Amen.